J'ai une question peut-être bête, hein, mais comment vous voyez par exemple le travail de quelqu'un comme Claude Ruteau avec ses définitions méthodes aujourd'hui par rapport à Fluxus ?
Ben, ça participe globalement de la même problématique avec une facilité quand même, c'est que à la différence de Fluxus, dans le sillage de l'art minimal et de l'art conceptuel, les artistes ont échafaudé un protocole de travail avec les musées. D'ailleurs, travailler sur des protocoles d'exposition, quelqu'un comme Sol LeWitt, par exemple, quand il fait un mur peint, ou quand une grande collection achète un mur peint de Sol LeWitt, finalement, on achète une méthode. Ça a été pensé, théorisé par les artistes conceptuels américains. Ça n'était pas du tout par les artistes de Fluxus, qui ont été beaucoup plus critiques vis-à-vis du champ institutionnel des lieux de monstration de l'art. C'est bien pour ça qu'ils sont allés faire des concerts et qu'ils sont allés dans la rue et dans des espaces qui étaient a priori pas dévolus. Voilà. Alors chez Claude Ruteau, je veux dire, on est les conservateurs ou les historiens de l'art sont en terrain plus balisé parce que il y a une articulation plus forte à l'histoire de la peinture, même si c'est très c'est ténu, etc. Hein. Et puis il y a des protocoles qui sont bien documentés, bien archivés, voilà. Mais globalement, ça suppose aussi de prendre en compte un certain nombre la part d'expérience, hein, dépasser la question finalement de la rationalité et de la délectation rétinienne en repositionnant les enjeux sur les régimes d'expérience, les pratiques de l'œuvre, les modes d'appropriation sociaux de l'œuvre.
Oui, je voudrais, si on devait revenir dans les salles de classe, j'étais intéressée par l'œuvre d'art de Ben, parce que justement c'est quelque chose que les élèves ont sous forme de pochettes plastiques et de stylos et de choses comme ça. Quelle passerelle, parce que là le discours était très érudit, et donc quelle passerelle, quelle piste vous pourriez nous proposer en tant qu'enseignant du secondaire pour que essayer de faire étudier ou de faire travailler, de comprendre l'apport de Ben dans l'histoire des arts tel qu'on l'enseigne aux élèves. Est-ce que ça serait déjà peut-être plutôt un professeur de lettres, plutôt un professeur d'histoire? Bon, après vous connaissez peut-être pas forcément les programmes de nos disciplines, mais voilà, comment on pourrait faire le lien entre la recherche et ce que la recherche, après, en vulgarisant et en la travaillant avec des mots pour nos élèves, quelle passerelle vous pourriez ou piste vous pourriez nous proposer?
Alors Ben étant un grand graphomane, La démarche littéraire me paraît assez opportune, d'autant plus que c'est pas signalé, hein, parce qu'on réduit souvent sa pratique à un geste un peu potache, etc. Mais il y a des influences littéraires, c'est pas totalement un idiot. Et entre autres, si vous lisez la prose du Transsibérien et la plupart des poèmes de Blaise Cendrars, vous aurez une très bonne idée de la structure syntaxique qu'il utilise de manière immodérée dans sa newsletter sur Internet, dans ses tableaux, etc., etc. Je crois qu'il y a un autre angle d'approche, ça peut être la question des multiples. C'est-à-dire regarder ces stratégies artistiques qui sont apparues grosso modo en Europe et aux États-Unis à la milieu des années 50, discutable, hein, mais enfin bon, à la louche, et qui ont participé, du moins dans l'esprit des artistes, d'une forme de démocratisation de l'accès aux œuvres d'art. Démocratisation liée au prix d'achat. Alors évidemment, l'artiste du milieu des années 50 n'a pas encore accès à la puissance de feu de l'industrie culturelle de 2010. Donc au départ, c'est vrai qu'il s'agissait essentiellement de produits en série assez limités. Très rapidement, il y a deux positions par rapport au merchandising. C'est-à-dire à partir du moment où les musées se sont mis à faire des mugs et des casquettes, il y a deux types d'approches artistiques. Il y a l'artiste qui vient faire du fric, hein, nous le cachons pas, ils sont un certain nombre, et qui va décliner des images sur des mugs, des casquettes et tout ce que vous voulez. Finalement, il y a... Bon ben voilà, hein, point à la ligne. Picasso, du reste, à son époque, a pas été très en reste de ce type de d'approche. Hein. Et puis, il y a quelques artistes, quand même, qui vont essayer de prendre en compte les spécificités de ce mode de production industrielle et en même temps essayer de, voilà, de trouver un espace intermédiaire, etc. Alors, par exemple, j'ai, de manière un peu iconoclaste, hein, faut se boucher les oreilles, hein, les historiens de l'art, mais j'ai proposé d'intégrer au corpus de Ben à sa mort l'ensemble des multiples qu'il a produits pour donc les chaussettes, les etc. Alors, vous imaginez, ça veut dire qu'il faudra peut-être 150 historiens pour établir le corpus de l'artiste. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il faut prendre ça au sérieux aussi. Il faut prendre ça au sérieux aussi.
Je peux me permettre aussi, bon, par rapport à cette question-là, et sur l'intitulé La culture croisée, etc., parmi toutes les œuvres de Ben, il y a entre autres un grand tableau qui a été exposé d'ailleurs au Musée d'art contemporain, Babel, avec foisonnement d'écriture, etc. Et dans la position de Ben, il y a toutes ces références constantes à cet ethnocentrisme, et il y a une réflexion très profonde là-dessus. Donc je pense que ça, c'est une entrée très sérieuse. Enfin, c'est le côté sérieux, peut-être, de Ben, mais peut-être que
oui,
tu peux en dire un mot.
Justement, et c'est l'entrée sérieuse de Fluxus en général. Enfin, c'était un grand moment de polémique en 65. L'avenue de Stockhausen à New York pour un grand festival d'avant-garde. Et Stockhausen s'était fendu assez régulièrement de saillie contre le jazz, hein, qu'il considérait comme une musique primitive, etc., etc. Une partie des artistes Fluxus était à l'intérieur du festival en train de performer aux côtés de Stockhausen. L'autre partie faisait un piquet de grève devant. Ce piquet de grève était mené par Machunas, avec Ben, Henry Flint, Ayo, il y en avait un certain nombre. Et donc, il dénonçait, il y avait un tract très très fort, hein, qui dénonçait la tradition plutocratique et élitiste et élitaire des avant-gardes européennes. Et d'ailleurs, dans le manifeste de Machunas, que aucun des autres artistes n'a voulu signer, il y avait aussi cette idée, lui, il parlait de démolir la culture européenne au sens de dépasser les problématiques de la culture européenne, dont, entre autres, cette problématique de la dichotomie entre, on va dire, cette polarité entre le patricien et le populaire, quoi. Alors, je crois que je l'ai. Donc, effectivement, lui aussi, il a eu tout faux, Ben, c'est ce que j'essayais de démontrer. À une époque où, un peu avant mai 68 et un peu après, il valait mieux être marxiste-léniniste, pro-chinois ou, enfin, vous voyez, hein, lui, il a dit « Ah non, non, moi, je suis un ethniste ». C'est-à-dire que je considère pas que la lutte des classes n'existe pas. Hein. C'est ce qu'il disait dans les vives discussions qu'il avait avec les autres artistes de l'époque, les nouveaux réalistes. Il dit « Non, non, mais les camarades, hein, les luttes des classes existent, hein, Marx a raison ». Mais cependant, elles sont secondaires par rapport à un autre type de lutte qui est au fond, au fond, il faisait une critique de type postcolonial, hein, à cette époque. Bref, donc c'est, y a eu cette réflexion aussi dans Fluxus, et elle a eu, la réflexion postcoloniale a eu d'autant plus lieu dans Fluxus et d'autant plus facilement. Qu'il y avait pas mal de pays qui étaient, je dirais, regardés d'en bas par l'Europe, hein, de protagonistes, qu'il s'agisse, je pense, de Nam June Paik, des gens qui venaient de Corée, etc., mais même aussi de certains pays du Nord, de la Suède, bref. Voilà, alors pour revenir là-dessus... il faut ouvrir, hein, ces petits trucs. C'est vraiment des. À chaque fois, ça me fait penser un petit peu au livre de Pierre Hadot sur la philosophie antique. C'est des exercices spirituels. C'est-à-dire, c'est une phrase ouverte. Il y en a dans tous les intercalaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste une phrase sur la couverture. Et ça ouvre un espace de réflexivité finalement dans le temps, puisque l'agenda c'est là, hein, toujours pour contraindre le temps, finalement, si on en faisait une analyse marxiste, c'est l'agenda, l'outil du capitalisme, puis c'est celui qui permet le découpage, la segmentation du temps en unités productives, etc. Eh bien, lui, il fait des petites poches, vous voyez, vous tombez sur un intercalaire ou sur une petite phrase un peu rigolote, ou à double fond, vous voyez, hein, il joue beaucoup sur la syllepse, sur les concaténations de sens, etc. Voilà, donc c'est bien un objet marketing, mais c'est à la fois un objet artistique. Il faut le voir comme tel. Derrière, il y a vraiment un projet artistique, une démarche pour chacun de ces objets, qui sont plus ou moins réussis. Il y a des réussites, il y a des choses moins réussies. Voilà. Mais voilà. Et c'est vrai que dans Fluxus, pour revenir à la question culturelle et politique, dans les anecdotes, hein, alors Machunas, qui était un stalinien consommé, a fait des lettres drôlissimes à Khrouchtchev. Hein, il a écrit à Khrouchtchev en disant, bah voilà, nous sommes le nouveau groupe d'art prolétarien, c'est nous. Camarade Khrouchtchev, quand est-ce que tu nous invites pour une grande tournée de concert Fluxus en URSS, avec force argumentaire, hein, sur les qualités prolétariennes des concerts Fluxus, en parlant beaucoup des actions de Ben dans la rue d'ailleurs. Lettre évidemment restée sans réponse, hein. Je trouverais croustillant d'aller regarder dans les archives du Kremlin ce qui peut rester de ce genre de choses. Et puis voilà, alors globalement, le cadrage marxiste a quand même été moins fort dans Fluxus que dans d'autres groupes de cette époque. Et du coup, ça, plus l'internationalité, l'aspect transnational du groupe, finalement, ils ont été davantage pris dans les questions d'acculturation, de cultural studies, etc., que d'autres groupes. Et ils ont été... Fluxus est le premier groupe collectif d'artistes mouvement américain à compter un noir dans ses rangs. C'est Ben Patterson. Ben Patterson était un violoncelliste virtuose qui n'a jamais trouvé de place dans un orchestre philharmonique à la fin des années 50, dans les années 60, parce qu'il était noir. Résultat, il se retrouve à scier des pianos avec les artistes Fluxus. Mais c'est quelqu'un qui joue de manière virtuose du bac, etc. C'était un musicien extraordinaire. Mais il a fait les frais de la ségrégation raciale qui existait encore, hein, puisque Fluxus, ça se construit entre 57 et 62. Les premiers événements, c'est 62. Hein, donc voilà. Donc c'est à prendre en compte. Les réponses sont longues, hein, et désordonnées.
Je dirais que l'art contemporain en soi, mais les arts numériques, vidéographiques, actuels, etc., sont d'une extrême richesse pour les enseignants. Et je veux dire, on peut aller un petit peu plus loin dans le temps, c'est-à-dire commencer par des gestes qui vont fonder cet art contemporain à venir, c'est-à-dire que ce soit Duchamp, que ce soit Picasso, puisqu'ils vont faire venir des éléments du réel dans les œuvres et leur donner un autre statut. Et je dirais que toutes ces portes d'entrée est là pour les élèves, c'est-à-dire toutes ces notions de bricolage, toutes ces notions de justement le tag, enfin, etc., etc., font que c'est pas péjoratif, bien au contraire, c'est des portes d'entrée parce que c'est leur monde, c'est le monde dans lequel on est, et c'est souvent plus facile, je dirais, de passer par cet art contemporain avec des jeunes élèves. Et de pouvoir justement après voir toutes les références et de leur faire comprendre que les artistes ils regardent le monde déjà tout simplement et qu'ils en parlent et qu'ils en font des messages et qu'ils en font des images.
Oui, oui, après je veux quand même dire quelque chose, c'est que malgré tous mes aspects un peu iconoclastes, je considère quand même que, par exemple, l'art contemporain démarre en 1789. Je reste un historien pur suc de ce point de vue-là. Et je ne voudrais pas non plus défendre l'idée qui, à mon avis, est fausse, que l'art contemporain s'est érigé sur une rupture. Finalement, plus on fouille, plus on se rend compte qu'il y a plus de continuité que de rupture et que Mais vous avez raison. Comme j'ai été médiateur culturel, j'avais les mêmes enjeux face au public. Simplement parce que c'est le monde dans lequel on vit. Donc, quand on va voir des tableaux du XVIe siècle, il faut ramener une connaissance historique pour pouvoir regarder les œuvres et les comprendre. Si un artiste fait quelque chose sur ou réalise une œuvre qui parle d'un événement actuel, puisqu'on est les contemporains de cet événement, a priori, on n'a pas besoin d'une connaissance historique pour se ramener. En revanche, il y a une vraie difficulté qui a changé, c'est-à-dire qu'entre 1870 et 1915, dans tous les champs de la création, les langages communs se sont délités. C'est la fin du maître en poésie, etc., etc., etc. Et puis bon, en peinture, j'en parle pas. Donc, il y a peut-être une difficulté, c'est qu'il y avait un langage commun avant 1870 qui permet finalement, quand on a les codes iconographiques, de lire avec finalement pas mal de facilité les différents tableaux, etc., ce à quoi ils se rapportent, leurs sujets, leurs discours, leurs propos, avant de rentrer dans la matière qui est toujours singulière, etc. La difficulté dans une exposition au musée d'art contemporain qui serait pas monographique, par exemple, c'est qu'on rentre dans une salle avec Ben, on se dit tiens, on commence à déchiffrer l'italien, et puis on passe dans la salle suivante, c'est Joseph Beuys, et là l'alphabet qu'on a patiemment construit en interprétant l'œuvre s'écroule, il faut en reconstruire un autre. Ceci me permet de dire que Beuys était très accueillant envers toutes les Fluxus était très accueillant envers toutes les cultures, parce que Beuys, par exemple, c'est un artiste qu'on a un temps assimilé à Fluxus alors qu'il n'a fait qu'un court passage de 6 semaines, mais Beuys, c'est quand même l'héritier du romantisme allemand. On comprend rien à Beuys si on lit pas Rudolf Steiner. Et qui était Rudolf Steiner? C'était l'éditeur de l'œuvre scientifique de Goethe. C'est-à-dire envisager, alors la sculpture sociale, si on n'imagine pas que la société est un grand organisme et quand il y a des équilibres, ça crée des... voilà, on est à 1000 lieues, par exemple, de la pensée de Brecht ou de Filiou, c'était extrêmement hétérogène. Voilà, c'était une aparté. Hein, mais vous avez raison, la porte d'entrée est plus facile parce que c'est... voilà. Mais la difficulté est déplacée, il y en a bien une, mais elle est ailleurs.
Oui, je voulais juste dire que j'ai l'impression que dans tout ça, qu'effectivement, pour le son, c'est encore plus difficile. Je pense par exemple à toute la période des compositeurs du style Berio Parmigiani, etc., toutes ouais. Ces, voilà, qui ont été complètement, qui sont passées, ouais. Et dont il ne reste rien à l'heure actuelle, ou très peu de choses, ou très peu de lieux, ou très peu, on va dire, ou très peu d'écoute. Et là, je pense qu'on est vraiment, alors que en ce qui concerne le langage musical, on est dans une vraie creux qui fait qu'à l'heure actuelle, ce creux-là, de toute façon, manque. Alors, on a coutume de dire que dans l'écoute, d'une manière générale, le commun, en fait, entre guillemets, des mortels, s'arrête à la fin du 19e. Hein. En gros, c'est ça. Et qu'après il y a un saut monumental, et après il y a un petit peu au niveau de tout ce qui est courants musicaux, une espèce d'amalgame entre les courants populaires, ceux qui ne sont pas, la musique qu'on a jugée élitiste, la musique intellectuelle, etc., etc. Et là, franchement, pour reprendre un peu le terme, un peu de, et ça n'a rien à voir avec l'exposition qu'on a vue hier soir, mais je vais reprendre le terme, c'est un vrai pataquès, c'est un vrai mélange. On est dans une espèce de difficulté pour arriver à essayer d'avoir un peu des moments repères et à donner aux élèves aussi également, puisqu'en fait, on est quand même, nous, là pour ça hein, aussi. Voilà.
Le champ musical a été... les oppositions entre les acteurs du chant ont été fratricides, beaucoup plus que, étonnamment, hein, alors qu'il y a des grandes querelles dans l'histoire de l'art, etc. Mais là, elles ont été fratricides. entre les tenants de la musique concrète et puis les autres. Et comme, je dirais, le champ musical est beaucoup plus articulé à un espace institutionnel et à un enseignement de type institutionnel, particulièrement en France avec, la figure des conservatoires, finalement, on n'a fait que déplacer les querelles et les reconduire dans les structures qui ont déporté. Vous voyez ce que je veux dire, hein, alors après, j'ai pas de compétences pour parler de ça. Moi, le peu que je connais de cette histoire vient de la porte d'entrée de l'histoire de l'art. Alors je vais connaître toute la partie brutiste, Rousseau, les futuristes, et puis bon, ceux dont j'ai parlé, hein, Cage, etc. En revanche, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de connexions. Je crois que cette notion d'événement, elle est extraordinaire. Elle permet de repenser beaucoup de choses. Comme je crois, quand je vous montrais le schéma en trois parties du dispositif, je pense que le concept de dispositif permet de repenser aussi d'une certaine manière. Peut-être des outils qui sont pas très opérants pour nous, c'est-à-dire le concept de forme ou le concept d'objet, par exemple. Mais bon, effectivement, c'est regrettable. Après, je ne peux pas en parler davantage.
Moi, je voudrais intervenir sur une préoccupation qui est d'ordre pédagogique. L'histoire des arts, c'est prendre en considération le champ du patrimonial et celui du contemporain, déjà. Qu'on commence par le contemporain pour remonter ensuite et pour faire apparaître qu'il y a en fait des ruptures, de fausses ruptures, mais qu'on trouve toujours un avant qui est porteur de ce que l'on constate dans l'instant, ça me paraît très, très important. La difficulté, comme j'ai rencontré à tous les niveaux, s'agissant des élèves ou des étudiants qui envisagent de se manifester dans le domaine plus particulier des arts plastiques. Lorsque on aborde le domaine de l'art contemporain au collège en art plastique, il n'est pas rare que les élèves finalement soient séduits par l'aspect quand ils se situent dans une position de producteur d'images, si vous voulez, d'objets, peu importe. Le sentiment que, d'une part, c'est très ludique, c'est très... Il y a toujours quelque chose au bout qui est intéressant, et c'est donc relativement facile dans leur esprit. Si on ne prend pas appui sur l'histoire, dans ce cas, de l'art, eh bien, ça reste au niveau d'un moment récréatif presque, ou sur le plan narcissique, tout à fait satisfaisant, parce que ils constatent qu'ils ont fait cet objet-là et que finalement c'est aussi bien que celui que produit quelqu'un qui est porté par le marché. Et ça me conduit à faire apparaître que quand on enseigne, il me semble qu'il y a, enfin c'est ma position, elle est personnelle donc elle est complètement contestable, qu'il y a intérêt à enseigner des règles, et ensuite, lorsque ces règles ont été pratiquées et suivies, entreprendre très vite le travail de la perturbation de ces règles, du rejet de ces règles. Les connaître d'abord pour les dépasser ensuite et les mettre en difficulté. Alors, si on commence uniquement par l'art contemporain, on est à la destruction des règles, mais sans la connaissance des règles antérieures. Et c'est là que l'histoire des arts peut apporter quelque chose. Sinon, on arrive dans une situation que confirme actuellement la réussite, telle que la pensent les élèves, les étudiants en particulier. Après tout, je vois pas pourquoi un tel, qui à mon âge, 22 ans, 23 ans, 24, 25 ans par exemple à l'université, à ce succès-là, moi je fais exactement quelque chose d'aussi bien et ça ne marche pas pour moi. Et le problème que l'on fait apparaître assez facilement, c'est que il n'y a plus de règles. Je ne dis pas que Roger Depille est à réactiver et qu'il est tout à fait important de lui redonner la parole, si vous voulez, mais il n'y a plus de porteur de parole sur ce qu'il conviendrait de faire, que l'on peut mettre en pièce, bien entendu, tout de suite après. C'est le marché qui en décide actuellement. Il n'y a pas d'autre critère qui est celui-là, avec des fonctionnements tout à fait obscurs pour portés par des collectionneurs et quelques conservateurs des musées importants. Et je trouve que ça met vraiment, ça rend le métier d'enseignant en art plastique très compliqué. Si on veut le faire honnêtement, sans démagogie, sans être réactionnaire, il y a tellement de contradictions à articuler les unes aux autres que moi personnellement ça me pose problème. Avec des grands, ça va, si on peut leur tenir ce discours-là autour duquel ils se construisent des réactions, une attitude, un discours, ils ont une maturité suffisante et c'est de leur rendre service. Mais des élèves un peu plus jeunes ont du mal, je crois, et c'est ce qui se passe un petit peu au collège. C'est ce qui s'est passé jusqu'ici, avec la confiance absolue accordée à un moment donné dans l'histoire de l'enseignement des arts plastiques aux contemporains et sa priorité totale et éliminatrice de ce qui s'est passé auparavant. Je trouve que là, il y a peut-être un danger qu'on n'a pas su surmonter.
Alors, si je peux faire une petite réponse rapide, plusieurs choses dans votre question qui est très importante. La question de l'évaluation des œuvres. Les historiens de l'art n'ont pas vocation à dire, a priori, à produire des jugements de valeur, mais on en produit quand même. C'est-à-dire, un historien de l'art est tout à fait à même, et à la rigueur, c'est aussi son rôle de dire pourquoi telle œuvre est meilleure que telle autre. Il y a des critères simples, hein, je veux dire... puisqu'on est des historiens, celle qui est plus ancrée de manière la plus pertinente dans son époque, celle dont le dispositif formel est le plus syntaxiquement dense, etc. Il y a un certain nombre de critères qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sont pas du tout qui existent et qui permettent finalement de donner, de produire ce type de voilà. En revanche. Là où je diffère un petit peu de votre approche, c'est que dans Fluxus, par exemple, il n'y a pas de destruction. Et c'est ce que j'aimerais changer. Alors, vous voyez, parce que c'est les avant-gardes se sont construits sur le discours de la table rase, etc. Mais depuis 1870, il y a bien une tradition qui s'est construite. Et des néo-impressionnistes aux futuristes, aux fauves, etc., jusqu'à Fluxus, il y a un certain nombre de modes d'action qui sont strictement, rigoureusement les mêmes. Voilà. Donc, ça n'est pas qu'un iconoclasme. Au contraire, par exemple, je suis très fâché quand, mais c'est en passe de. Il y a eu la grande exposition en 2005 de Dada à Beaubourg, hein, et puis un certain nombre d'historiens qui ont quand même sacrément bien travaillé sur le sujet, à la suite du surréalisme, hein, et je dirais de la représentation qu'en avait donné André Breton, on a eu tendance à ne voir dans Dada qu'un geste destructeur. Ça a été un inventeur de formes extraordinaire pour l'image en mouvement, le cinéma expérimental, etc. Déjà des formes de proto-performance que Tristan Tzara appelait les poèmes mouvementistes au cabaret Voltaire, c'est-à-dire des poèmes construits uniquement de gestes, pour lesquels on n'a absolument plus aucune trace. Hein. Je veux dire, on a un compte-rendu de 3 lignes dans telle ou telle revue, et puis pas de photographie, rien. Voilà un petit peu un premier élément. Et puis, pour être prospectif, c'est pas notre rôle, mais quand même, il y avait un texte de Boris Greuss dans le catalogue de la dernière Biennale d'art contemporain de Lyon, qui est un professeur allemand, et qui disait en substance que, à l'heure où les moyens de produire des images sont entre les mains de tout le monde, etc., l'artiste va avoir à construire une nouvelle négociation de sa place et de son rôle dans les sociétés. Puisqu'on est passé à une société de producteurs dans laquelle n'importe quel gamin que vous avez en face de vous, qui a maintenant des petits objets, etc., peut produire des mini-films, des choses, et ils sont pas trop mauvais, hein, il faut reconnaître. Effectivement, le statut de producteur, je dirais, est passé d'un statut rare qui était dévolu à la figure de l'artiste à un statut qui s'est démocratisé, etc. Donc, je crois qu'on va peut-être voir, hein, mais j'en sais rien... une forme de négociation sociale à grande échelle, hein, dans lequel les artistes vont avoir à rejouer des coudes pour trouver un nouveau positionnement, je ne sais pas lequel. Et la deuxième chose, ce qui monte en puissance, et ce qui était déjà visible dans Fluxus, c'est les œuvres qui sont construites pour susciter des modes d'appropriation, hein, qui construisent des régimes d'expérience. L'event, c'est bien une partition, donc c'est fait pour que les gens s'en emparent, pour que les gens l'actualisent, etc. C'est aussi une stratégie qui est montée en puissance à partir du milieu des années 50, qui est toujours très présente, même si elle rencontre avec fracas les lois du marché, hein, qui font qu'un artiste, comme Brecht, heureusement qu'il a inventé son brevet du tampon hygiénique, parce que c'est pas en vendant ces petits trucs à 2 $ qu'il aurait fait une grande carrière artistique. Mais cela étant, les formes qu'il a inventées sont extraordinairement plus novatrices que bien des artistes qui vendent, bref, vous m'avez compris. Voilà aussi, hein. Et la dernière chose, en l'histoire de l'art français, particulièrement, c'était arc-bouté sur le premier 20e en négligeant le second 20e. Ben, on l'a payé. C'est-à-dire, qui a occupé le terrain des années 60 jusqu'aux années... La critique d'art qui est pieds et poings liés au marché. Donc, ma foi, il faut compter sur notre génération, c'est-à-dire des historiens de l'art qui revendiquent le positionnement épistémologique de l'histoire de l'art et qui vont faire ce travail-là qu'il faut faire sur les années 60 et au-delà. On est en retard en France par rapport à d'autres pays. C'est que en produisant ce genre de choses qu'on réussira aussi à donner un autre son de cloche. Je sais pas si on va contrecarrer le marché. Je pense qu'on est quand même pas si fort que ça, mais enfin un autre son de cloche.
Mais enfin, c'est une question qui est aussi un peu une réponse à Pierre Baquet. Que j'ai rencontré il y a très longtemps quand on préparait le CAPES dans les années 70 à Paris, hein, donc d'art plastique. Enfin bref, ça c'était une aparté où on nous apprenait d'ailleurs à être absolument dans la rupture et en bonne étudiante après avoir obtenu l'agrégation, je me suis retrouvée donc dans un collège d'Eure-et-Loir où j'ai pratiqué précisément beaucoup d'événements. Emmenant mes élèves faire des happenings en permanence, ne supportant pas moi-même l'abominable classe dans laquelle on m'enfermait. Enfin bon, je trouvais ça assez terrible. Donc, je leur ai fait pratiquer beaucoup d'événements, de happenings. Et ça m'a permis d'ailleurs, pas seulement d'être dans la rupture, mais aussi d'affirmer une relation à l'histoire de l'art. C'est-à-dire à la fois de leur faire comprendre que les événements avait eu lieu avant. Alors après, en travaillant sur les cabinets de curiosité, je me suis évidemment penchée sur les nombreux événements qu'il y avait eu au XVIe siècle avec les transports d'indigènes, hein, comme on les appelait à l'époque, ou le transport de licornes qu'on montrait dans différents défilés des mariages de Catherine de Médicis, etc. Mais c'était une façon à la fois d'utiliser leur volonté de jouer dans l'espace public qui était l'école et de raccrocher ce jeu à un certain nombre de connaissances. Et à mon sens, précisément, c'est davantage d'ailleurs les arts plastiques qui étaient amenés à faire ça que l'histoire des arts qui, contrairement à ce qu'on semble nous dire, est plutôt une pluridisciplinarité qu'une transdisciplinarité. Et c'est là où, moi, ça me questionne, c'est-à-dire que les artistes et les plasticiens et les enseignants d'art plastique ont toujours fait ça, d'une certaine façon, cette manifestation plurielle. Parce que je leur faisais faire aussi des concerts de bisous comme Nicolas Fries, on était déjà dans la pluridisciplinarité active des arts. Donc ça n'a pas été inventé par l'histoire des arts, et je pense qu'au contraire, l'histoire des arts, dans cette dimension un petit peu trop séparée et additionnelle, empêche un petit peu précisément ce que je disais hier, un peu le travail d'unité des arts à propos d'un certain nombre de questionnements, de thèmes qui sont ceux de l'art à l'école et qui est vraiment un gros problème.
Je terminerai brièvement en disant que il y a presque un parallélisme de questionnement entre votre intervention et globalement vos vos journées de travail autour de l'histoire des arts, et puis un colloque auquel je vais participer à Genève en mars, qui s'intéressera à la question de la transmission de l'expérience pédagogique par les artistes, etc. Vous avez raison, c'est les arts plastiques qui ont porté ça. Finalement, vous avez été les fers de lance de Fluxus dans le... Non mais si, parce que quand Filiou faisait des workshops fin des années 70, début des années 80, c'était des performances pédagogiques, c'est-à-dire qu'il développait une forme de rhétorique pragmatique, d'action, etc., qui était un processus d'apprentissage en continu, etc. Alors, ce qui est amusant, c'est que les écoles d'art européennes sont en train, comme en France, de passer au 3-5-8 et de se rentrer sous la coupelle de l'université, et se posent des questions parce qu'elles se disent, au fond, on va perdre ça. Et vous, d'un autre côté, vous êtes en train de mettre en place l'histoire des arts et vous vous posez finalement globalement presque les mêmes questions, mais en inversé. Et voilà, ce n'est pas une réponse, c'est juste une constatation. C'est-à-dire que les écoles d'art se disent, bon ben voilà, il va falloir préparer des masters, donc il va falloir faire écrire les étudiants, il va falloir leur faire faire des mémoires de 100 pages, etc. Est-ce que ça va pouvoir s'articuler avec la tradition des écoles d'art, qui était justement la tradition du workshop, etc. Et voilà, c'est très compliqué. On est à des moments de rupture hein, des deux côtés, pour lesquels j'ai absolument aucune réponse, évidemment.
Deux choses, puis je ne vais pas garder la parole longtemps. Pour répondre à madame, si l'histoire des arts, c'était simplement pluridisciplinaire, ce serait un échec. Hein. C'est pas cela qu'on espère, qui est attendu. Et deuxièmement, s'agissant des écoles d'art, vous abordez une question très complexe et assez douloureuse, d'ailleurs. Le souci piloté par les ministères de la Culture d'intégrer tout cela dans le domaine universitaire avec le 3-5-8, avec l'obligation à partir de ce moment-là d'ajouter, je caricature exprès, hein, c'est pas ma pensée, du discours à ce qui était autrefois porté uniquement par une réalisation, c'est un vrai problème qui est en train de se poser, et je sais pas ce qui va du tout en résulter. De toute façon, tout ce que je viens de dire depuis un quart d'heure, c'est plutôt l'expression de mes doutes, de mes questions que de certitudes. Hein. Quand on enseigne soi-même, et je continue à le faire, je vois bien que ça me paraît de plus en plus difficile et de plus en plus compliqué. Sans doute parce que je vieillis.